Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
C'est un texte majeur, un texte dont beaucoup ont entendu parler, mais que peut-être peu ont lu, Evangelii Gaudium, l'exhortation apostolique du pape François publiée en 2013, soit presque au lendemain de son élection, un texte programmatique selon les mots mêmes du pape, invitant rien moins que l'église entière à un vrai renouveau, lecture, explication et commentaires dans l'émission de ce matin. Voilà, une émission Vivante Église qui va avoir une suite puisqu'on va faire une lecture continue, donc un mercredi par mois de ce texte majeur, Evangelii Gaudium, la joie de l'évangile, exhortation apostolique du pape François. Et ce matin, nous sommes, comme pour quelques émissions, on aura plusieurs intervenants pour cette série d'émissions avec le frère Gilles Danroc. Il y a pas mal de séries d'émissions cette année, donc à un moment je donnerai une grille des programmes à nos auditeurs pour qu'ils ne soient pas perdus au milieu de ces différentes séries. Il y a par exemple un lundi par mois les École de la prière. Maintenant, il va y avoir un lundi par mois, Evangelii Gaudium, et entre autres un mercredi par mois et un vendredi par mois, l'émission cinéma, le ciné-club de Vivante Église. Alors, frère Gilles Danroc, on s'est dit en préparant l'émission qu'il fallait commencer par introduire ce texte et le mettre en perspective. Des textes, il y en a beaucoup, des textes du magistère. Voilà, tous les fidèles ne les lisent pas tous. Celui-là, il faut le lire, le relire et le mettre sur sa table de chevet, et pas seulement pour les pasteurs ou les personnes en responsabilité. Pourquoi ?
Oui, bien, c'est un texte qui, quand on fait le tri, représente la perspective du renouveau de la pastorale concrète de l'Église pour 20 ans. Il s'agit rien moins que de prendre en compte toutes les évolutions de la société, de la culture, du monde dans lequel nous vivons, et en même temps de tous les progrès de la réception du Concile Vatican II. Ça avait commencé par ce très grand texte de Paul VI, l'Évangile est à annoncer, de l'évangélisation du monde en 1975. Ça s'est continué par la grande activité pastorale de Saint Jean-Paul II. Et maintenant, il y a cette espèce d'aboutissement. Je crois que les choses sont mûres, le temps est mûr, les blés sont mûrs pour pouvoir lancer ce programme de renouveau complet. Et en ce sens, ça touche tous les chrétiens, pas seulement les curés, les évêques, les acteurs reconnus actuellement, mais ça veut dire que notre pastorale, y compris quotidienne, dans les paroisses, dans les mouvements, dans toutes les rencontres que nous allons faire, sont transformées par cette perspective de la joie.
Alors, dans la perspective de la joie, mais il y a aussi une forme de posture, en fait, à laquelle le pape François invite dès presque son élection, qui est donc une posture de sortie. Alors, est-ce que vous pouvez dire un mot, peut-être au début, c'est comme un fil rouge ou comme un aiguillon, qu'est-ce que ça veut dire sortie ? Qu'est-ce qu'il entend par là ? C'est à la fois une demande, on va dire, une attitude du croyant, une attitude personnelle, et en même temps une attitude collective et pastorale.
Oui, tout à fait. Elle se prend du Christ, nous le verrons. Le Fils bien-aimé qui sort du sein du Père, de la Trinité, de l'éternité, pour venir dans le temps, au milieu du temps, au milieu de l'histoire, auprès de nous, qui est donc en sortie de soi pour rencontrer. Et de même, je crois qu'on peut repérer dans le vocabulaire du pape François, depuis ses débuts, 2013, l'idée que l'Église n'a pas à se recentrer sans cesse sur elle-même, à ronronner sur elle-même, si on veut essayer de trouver. Et il appelle cela l'auto-référencement, c'est-à-dire qu'un groupe humain ne fait que se penser lui-même, sans penser à l'autre, sans penser que l'autre lui permet de se découvrir lui-même aussi. Donc, l'auto-référencement, et puis aller vers les périphéries, ça beaucoup ont entendu cela, non pas seulement comme les périphéries des villes, comme aller dans les banlieues ou aller dans les bidonvilles, mais être en sortie pour apprendre de la rencontre de l'autre qui on est, et sa vocation fondamentale, c'est-à-dire c'est un creusement de soi par l'autre.
On y reviendra peut-être à cette posture. Alors on va se plonger dans le texte. Ou non, peut-être une autre introduction importante, c'est donc que c'est un texte qui ne sort pas de nulle part, qui fait suite à un synode et qui est en partie ou en grande partie inspiré d'un autre document qui s'appelle le document d'Aparecida, qui est souvent cité et dont, pour lequel le pape François n'a pas été étranger, loin s'en faut. Dites-nous, c'est de racines, de sources.
Oui, effectivement, c'est une exhortation post-synodale. Le pape ne parle pas à partir seulement de lui-même. Il aurait eu, en se réveillant, l'idée d'un plan de pastoral pour les 20 ans à venir. Non, il fonde ce plan de pastoral, ce renouveau de la pastorale, sur un synode qui parle justement de la pastorale, synode de octobre 2012.
En quelques mots, le synode, c'est quoi déjà, c'est...
Alors, le synode, c'est une structure qui vient depuis, enfin plus qu'une structure, du Concile Vatican II, c'est-à-dire que le pape convoque tous les 2 ans un synode qui rassemble des évêques du monde entier autour sur un thème. Donc des évêques qui ont aussi une espèce de connaissance de terrain, une connaissance du thème, et qui viennent donc en parler. Là, je crois que c'est pendant une quinzaine de jours. Mais tout ça est préparé par un questionnaire, tout ça est suivi et doit déboucher sur un texte qui synthétise ce que le synode a dit. Et c'est pour cela que dans cette exhortation, dans la joie de l'Évangile, nous aurons souvent des interventions, des conférences épiscopales. Et c'est vrai que la première, la plus citée, c'est la conférence d'Amérique latine, dont faisait partie le pape François avant de devenir pape. Et donc, venant d'Argentine, il était au courant de tous les grands courants qui traversent et qui dynamisent l'Église d'Amérique latine, qui devient l'une des plus importantes du monde, avec l'Afrique.
Avec l'Afrique, voilà. Le Brésil, c'est le pays où il y a le plus de catholiques dans le monde, je crois, c'est ça?
Oui,
c'est...
et puis il y a 300 évêques. C'est grandiose, là.
Alors, si on rentre dans le texte, donc il y a comme presque une introduction à l'introduction. On va la lire. La joie de l'Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Point. Voilà. Cette première phrase, des gens peuvent peut-être la commenter, non? Tout simplement.
Alors voilà. C'est exactement ce qui situe toute la perspective de la joie de l'Évangile, toute donc la perspective du renouveau de la pastorale. Parce que il y a une espèce de combat de la joie. La joie n'est pas en claquant des doigts. La joie vient de la rencontre du Christ personnel et communautaire. On va le voir. Et s'il n'y a pas cette rencontre du Christ personnel et communautaire, il ne peut pas y avoir de projet ou d'organisation, sinon de devenir mondain. Or, le pape François le dit, ce qui s'oppose à la joie, c'est la tristesse du monde. Un monde de consommation, un monde de plaisir superficiel qui n'arrive pas à faire sourdre, à faire naître la joie, alors que le Christ, je crois, dans ce monde triste et stressé, dans ce monde, comme dit un philosophe, l'être pour la mort, l'homme est un être jeté pour la mort, avec des petits tirets entre les mots, eh bien, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de joie possible. On gère la tristesse.
Alors, je vais peut-être juste citer un passage et j'aimerais vous relancer sur ce commentaire. Le grand risque du monde est d'aujourd'hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur, bien installé et avare, de la recherche malade, de plaisir superficiel et de la conscience et de conscience isolée. Néanmoins, quand on lit ce texte, et c'est le cas du pape François, il ne jette pas du tout l'anathème sur le monde. C'est-à-dire qu'il y a comme juste un secret de la joie en fait, que l'Église aurait découvert, c'est ça, et qu'il faudrait partager.
Oui. Alors, ce secret de la joie, on l'a dit, c'est celui d'une rencontre personnelle qui remplit ce que le monde vide. Mais c'est une attention pour le monde. Ce n'est pas un refus ou un repli hors du monde pour trouver, je ne sais où, au fin fond d'un monastère ou d'un ermitage, une joie qui vous remplirait. Non, au contraire, c'est pour vivre dans le monde comme dit Pascal, l'homme passe l'homme, et il le dit, on va pouvoir y revenir tout à l'heure, c'est une sorte d'anthropologie. L'humain est plus que l'humain. S'il est moins que l'humain, il devient triste. S'il est plus que lui-même par la rencontre du Christ, il est plus pleinement humain par la rencontre du Christ que s'il restait dans l'isolement ou la tristesse du monde.
À un moment, le pape François dit aussi la chose suivante, preuve qu'il invite à un renouvellement radical en fait, oui, de chacun des chrétiens et de toute l'Église. J'invite chaque chrétien, et en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, oui, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Voilà, il demande de l'Église à toute l'Église de revenir à son premier amour, en fait, hein, quelque part.
Oui, et de renouveler. Parce qu'on ne peut pas rester statique, on ne peut pas dire « j'ai eu une joie de conversion quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, quand j'étais adulte, quand je me suis marié ou quand je me suis rentré dans une vocation religieuse ». Voilà. Et puis ça serait le passé, on le met dans un coffre-fort et ensuite on gère. Non, pas du tout, il faut que ça soit une source tout le temps vitale. Et ceci est très important quand on parle de rencontre du Christ et d'opposition entre la tristesse de ce monde et la rencontre du Christ, c'est que le Christ lui-même a vécu l'être pour la mort. C'est au milieu de ce monde qu'il a proclamé la bonne nouvelle de l'Évangile. Et c'est, vous allez le voir, une insistance permanente du pape François. Quand on parle de rencontre du Christ, c'est d'une rencontre avec le ressuscité. Parce qu'il a remporté la victoire sur la tristesse et la mort et la souffrance, il nous propose un programme de résurrection. La rencontre avec le ressuscité, la rencontre avec Jésus-Christ, c'est la rencontre qui nous ressuscite nous-mêmes.
Alors, il y aurait plein d'autres choses à dire, hein, ne serait-ce que sur ce premier volet, cette invitation du pape à renouer avec le Christ pour tous les croyants. On va avancer, je voulais juste citer un autre passage où on voit aussi l'expérience large du pape François et de l'Église. « Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j'ai vues au cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres qui ont peu de choses auxquelles à s'accrocher. Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans de grands engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple. Bref, une joie qui est pour tout le monde et y compris, peut-être même particulièrement, qui est donnée à ceux qui sont dans des situations les plus compliquées. »
Oui, on comprend, puisque le monde remplit de tas de choses. On est une sorte de grenier où sont déposées des couches et des couches d'informations, de stress, de possibles. Et du coup, il faut trouver une simplification de soi en se débarrassant de tout ce qui nous encombre. Donc, le pauvre est celui qui est désencombré. Et ce qui s'oppose au pauvre, c'est le riche encombré de lui-même, du poids de ses richesses, qui doit, comme dans l'Évangile, augmenter ses entrepôts, qui doit tout le temps penser à une logique du plus et qui ne peut même pas goûter ce qu'il a.
Alors, l'autre chose auquel invite le pape, c'est d'une certaine manière, pour tous les croyants, pour toute l'Église, à vivre à un niveau supérieur. Voilà, je vais citer ce passage et puis je vais vous laisser commenter. Il nous est proposé de vivre à un niveau supérieur et pas pour autant à une intensité moindre. La vie augmente quand elle est donnée et elle s'affaiblit dans l'isolement et l'aisance, c'est ce que vous venez de dire. De fait, ceux qui tirent le plus grand profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionnent pour la mission de communiquer la vie aux autres. Et il ajoute, quand l'Église appelle à l'engagement évangélisateur, elle ne fait rien d'autre que d'indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalisation personnelle. Voilà, nous, et puis on peut citer, c'est finalement cela la mission, dit-il. Donc il y aurait, d'une certaine manière, déjà une différence radicale, c'est ce que dit le pape en introduction, entre connaître le Christ et ne pas le connaître. Mais quand on le connaît, quand on est dans une dynamique justement de sortie, quelque part...
Et de résurrection.
D'annonce, de rencontre, toute l'Église s'en trouve dans ces cas-là, chaque chrétien et toute l'Église s'en trouverait profondément renouvelée.
Absolument. Il y a une chose qui est très simple.
Vous dites absolument, mais ce n'est pas du tout toujours une évidence.
C'est non, ce n'est pas une évidence. Mais il faut commencer aussi par la personne, par une sorte d'anthropologie qui est dessinée, l'anthropologie du missionnaire, ou plutôt de l'évangélisateur, qui est lui-même transformé par l'évangile à l'intérieur de lui-même. C'est que faire le bien fait du bien à celui qui le fait. C'est-à-dire, quand vous êtes dans une dynamique du bien, vous devenez plus humain, vous devenez plus vous-même, vous devenez plus pleinement vous-même. Et du coup, il y a toutes sortes de choses qui nous encombrent, qui tombent du fait même que c'est rempli par quelque chose d'autre. Et c'est ça la dynamique de l'Esprit-Saint, la dynamique de l'Évangile, la dynamique du bien. Le bien fait du bien à tous, non seulement à celui qui se trouve dans une logique d'apporter, de donner sa vie vers, mais... Et parce qu'il donne sa vie vers, il est rempli lui-même de ce qu'il donne et de la rencontre de l'autre et de ce qu'il reçoit. Et ça devient une dynamique.
Seulement là, il donne quelque chose de particulier. C'est pas, comment dire, c'est pas une ONG, comme dirait parfois
le pape. Non, on donne sa vie.
On donne sa vie et on annonce.
Eh bien oui, on donne sa vie et c'est ça qui est l'annonce et la sortie de soi et la sortie de l'Église vers le monde. C'est que, justement, nous sommes en premier, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en premier députés, envoyés à l'annonce de l'Évangile.
Nous découvrons ainsi une loi profonde de la réalité que la vie s'obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C'est cela, finalement, la mission. Par conséquent, un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement. Ah. Et puis, il y a une dernière chose, peut-être, c'est qu'il dit malgré tout que, au-delà de cette dynamique qu'il entend impulser, et pas que lui, hein, donc c'est, comme vous disiez, c'est le fruit d'un synode, d'une décision collective, il y a comme un changement de posture, il y a un en avant, j'ai envie de dire, mais il redit, et on finira par là avant de faire une première pause, que la primauté revient toujours à Dieu. Ça, c'est important aussi, parce que c'est pas, comment dire, il y a de la volonté, il y a de l'amour, mais ça n'est pas du volontarisme, c'est...
Non, c'est vraiment le mouvement de ce qui est rempli qui déborde. C'est ce qui est rempli qui déborde. Et c'est-à-dire la primauté de Dieu, ça veut dire que ce qui fait que je pourrais devenir le plus moi-même, c'est la présence du Christ en moi. Ce qui fait que l'Église peut devenir le plus elle-même, c'est la présence du Christ en elle qui pousse justement à cette sortie vers et à cette annonce d'une bonne nouvelle.
Alors on va s'essayer aujourd'hui à une pause musicale sur votre conseil un peu particulière. On fera pas ça pour chaque émission, mais comme ça se veut, en fait, une émission peut-être un peu plus avec une dimension de formation que les autres, on va s'essayer pendant quelques minutes à la lecture d'un passage. Alors peut-être qu'on n'arrivera pas à tout lire, comme c'est une première fois, on demande aux auditeurs d'être plein de mansuétude.
Il y a des chrétiens qui semblent avoir un air de carême sans Pâques. Cependant, je reconnais que la joie ne se vit pas de la même façon à toutes les étapes et dans toutes les circonstances de la vie, parfois très dures. Elle s'adapte et se transforme. Et elle demeure toujours au moins comme un rayon de lumière qui naît de la certitude personnelle d'être infiniment aimé au-delà de tout. Je comprends les personnes qui deviennent tristes à cause de graves difficultés qu'elles doivent supporter. Cependant, peu à peu, il faut permettre à la joie de la foi de commencer à s'éveiller, comme une confiance secrète mais ferme, même au milieu des pires soucis. Comme dit le prophète Jérémie dans les Lamentations, « Mon âme est exclue de la paix, j'ai oublié le bonheur. Voici ce qu'à mon cœur je rappellerai pour reprendre espoir. Les faveurs du Seigneur ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité. Il est bon d'attendre en silence le salut du Seigneur. »
« La tentation apparaît fréquemment sous forme d'excuses et de récriminations, comme s'il devrait y avoir d'innombrables conditions pour que la joie soit possible. Ceci arrive parce que la société technique a pu multiplier les occasions de plaisir, mais elle a bien du mal à sécréter la joie. Je peux dire que les joies les plus belles et les plus spontanées que j'ai vues au cours de ma vie sont celles de personnes très pauvres, qui ont peu de choses auxquelles s'accrocher. Je me souviens aussi de la joie authentique de ceux qui, même dans des grands engagements professionnels, ont su garder un cœur croyant, généreux et simple. De diverses manières, ces joies puisent à la source de l'amour toujours plus grand de Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ. Je ne me lasserai jamais de répéter ces paroles du pape Benoît XVI qui nous conduisent au cœur de l'Évangile. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne, qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation définitive.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà, si par hasard vous nous prenez en cours de route, vous vous demandez ce qui se passe, eh bien tout simplement c'est une émission Vivante Église, mais avec donc une pause musicale un peu originale, Lire et relire Evangelii Gaudium, série d'émissions autour de la lecture de cette exhortation apostolique du pape François, La joie de l'Évangile, publié en 2013, texte majeur. Et aujourd'hui nous sommes avec le frère Gilles Denroc, dominicain et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, au sein de l'Institut catholique de Toulouse. Quelle voix vous avez, Gilles Denroc ? On va vous appeler The Voice, c'est...
Pourquoi pas ? Mais je peux chanter aussi, comme dans The Voice.
Vous avez une sacrée voix, en tout cas. J'espère que les auditeurs ont apprécié. C'était une pause musicale originale, mais c'était très beau. Si on continue dans la lecture de ce texte, on s'était dit que toute la deuxième partie, ça va être la priorité à la cause missionnaire. Voilà. Après cette courte introduction du pape, dans laquelle donc il invite toute l'Église à se recentrer sur la joie de la rencontre avec Jésus et d'en vivre, et après par débordement de vouloir aller à la rencontre du monde, non pas seulement pour annoncer, mais aussi pour se rencontrer, pour... L'Église a quelque chose à apprendre du monde. Hein. On n'y va pas que pour annoncer la bonne nouvelle. Le premier chapitre, c'est la transformation missionnaire de l'Église. Mais alors, juste avant, il redit en fait d'une certaine manière à qui l'Église souhaite s'adresser. Voilà. Et de manière très presque factuelle, il distingue trois types de publics. Alors, il y en a certains qui sont très habituels, je vais vous laisser les dire, si je les résume, il y a, on va dire, ceux qui sont des habitués des églises, il y a ceux qu'on appelle des personnes baptisées qui pourtant ne vivent pas les exigences du baptême, donc peut-être des chrétiens un peu des périphéries, ou qui se sentent un peu en marge de l'église, ou qui ont des situations de vie un peu plus compliquées, vous allez nous commenter ça. Et enfin, remarquons que l'évangélisation est essentiellement liée à la proclamation de l'évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ou l'ont toujours refusé. Ça fait du monde, et c'est une autre église peut-être, hein, non ?
Bah, tout simplement. On peut penser en termes de cercle concentrique habituel. On mettrait le Christ au centre, mais qui rayonne par les différents cercles du plus proche au plus lointain. Il y a d'abord, bien sûr, ceux qui sont déjà les acteurs de l'Église telle qu'elle est. Et c'est là qu'il faudra, à partir de la joie de l'Évangile, renouveler la pastorale ordinaire de l'Église, les chrétiens qui vont à la messe, les fidèles, ceux qui déjà ont un rôle important à jouer. Sans eux, l'Église ne pourrait pas être Église. Donc tous les acteurs. Mais la pastorale ordinaire doit être convertie à la joie et par la joie. C'est-à-dire que le premier cercle, des habitués, on va dire, se transforme non pas pour seulement regarder le Christ au centre, mais pour devenir porteur du Christ à la périphérie.
Mais si on ajoute, est-ce que cette joie ne n'est pas seulement de la rencontre renouvelée avec Jésus-Christ et de la décision de la sortie, mais tout simplement de se tourner vers ces deux autres publics, entre guillemets?
Voilà.
Expliquez-nous qui sont ces deux publics et pourquoi dans ces cas-là, c'est la source de la joie de toute vie chrétienne.
C'est beaucoup, mon cher Emmanuel.
Ah oui, mais vous savez, vous connaissiez les contraintes en venant ce matin. Donc.
Alors, donc le premier cercle trouve sa joie à se centrer sur le Christ qu'il envoie en mission. Voilà, c'est un double mouvement. Hein. Diastole, systole, si on veut. Voilà, le battement du cœur. Et ensuite, le renouveau de cette première pastorale dite ordinaire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas laisser le deuxième cercle, qui est lui-même un cercle où on voit des baptisés ou des croyants ou des chrétiens plus ou moins reliés à l'Église l'acquitter, pour mille raisons. Soit qu'ils vivent une situation semble les exclure de l'Église classique, c'est-à-dire l'Église centrée sur elle-même.
Exemple,
les divorcés et remariés. Exemple, ceux qui font du sport le dimanche matin, qui ne vont plus à la messe depuis longtemps. Ceux qui ont des préoccupations qui font que la pratique régulière classique leur devient de plus en plus étrangère, ceux qui sont aussi scandalisés par tous les scandales que l'on peut trouver, de la richesse de tel cardinal à la pédophilie, etc., 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 et qui partent, certains en claquant la porte, d'autres sur la pointe des pieds, tout doucement, peu à peu. Alors là, donc, on a un deuxième cercle de gens qui ont quelque part connu quelque chose de l'Évangile, quelque chose de l'Église, et qui l'abandonne. Est-ce qu'on peut les laisser partir sans les accompagner? Voilà la pastorale.
Ou est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de savoir les accueillir aussi? Je pense par exemple au divorcé remarié.
Et tout à fait. Ouais. C'est ce que finalement Amoris Laetitia va proposer, et on comprend très bien le programme d'Amoris Laetitia quand on lit le programme de la joie de l'Évangile. Ça.
Ce troisième, public, en fait, explicitez-nous un peu ce... L'évangélisation est essentiellement liée à la... Essentiellement, hein, il n'a pas dit en plus, à la proclamation de l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ou l'ont toujours refusé.
Voilà, alors c'est là qu'on comprend qu'être chrétien, ce n'est pas seulement être chrétien pour son salut. Le cantique du début du XXe siècle, contre lequel d'ailleurs...
On n'en est plus là quand même dans l'Église.
A protesté de façon prophétique. Mais effectivement, quand on s'embourbe d'une certaine manière, quand l'Église devient mondaine, elle ne peut plus, elle va chanter « Je n'ai qu'une âme qu'il faut sauver ». C'est-à-dire, c'est le salut individuel, le salut personnel qui compte. Là, notre salut passe par le salut du monde, passe par le salut de tous. Puisque nous rencontrons celui qui est le sauveur du monde, on ne peut pas rester simplement branché sur lui, puisqu'il nous envoie en mission par la manière dont il nous a sauvés. Et donc, on ne peut pas laisser des catégories hors de l'Évangile, hors de la joie. Soit hors de l'Évangile, parce qu'il le refuse, soit parce qu'ils ne le connaissent pas, comme il est dit, soit parce que, justement, ils ne peuvent plus retrouver le secret de la joie dans leur vie. Donc, c'est une découverte, une rencontre de l'autre qui devient une espèce de retrouvaille ensemble de la source de la joie.
Alors, si vous permettez, pour une fois, je vais raconter une toute petite histoire.
Ben allez-y. Voilà, hein.
Dans une autre vie avant Radio Présence, on avait fait un reportage pour un journal pour lequel je travaillais. On avait traversé la France du nord au sud en stop à la rencontre des Français, leur demandant ce qu'ils pensaient de Dieu. Et moi, j'avais fait la première partie Dunkerque-Paris en 2 jours en stop. Et à 1 heure de Paris, dans l'Aisne, j'avais été pris en stop par une femme et par sa fille qui allaient faire des courses, figurez-vous. Et je leur explique que je suis journaliste, que je ne suis pas un tueur en série. Et je leur explique l'objet de notre reportage. Et je leur demande, est-ce que vous connaissez l'Évangile? Elles m'ont dit, non, jamais. Je n'ai jamais, elles n'avaient jamais entendu parler de l'Évangile. Et que je leur ai raconté l'histoire, entre guillemets, de l'Évangile. Et la texto, hein, la fille a éteint le poste de radio, elles ont écouté, et à la fin, elles avaient les larmes aux yeux, et elle a dit à sa fille, la mère a dit à sa fille, que comme c'est une belle histoire. C'était à une heure de Paris. Elle n'avait jamais entendu parler de l'évangile.
J'espère qu'elle n'a pas coupé la radio de Vivante Église.
Voilà, pardon, hein, c'est pas très habituel de raconter sa vie.
Mais c'est magnifique, c'est
j'avais,
ça. C'est
j'avais
ça.
Du coup une question un peu piège pour vous. Chez les Dominicains, comment les Dominicains se rendent présents à ces trois réalités, voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui vient dans un couvent comme celui de Rangueil? Les gens viennent se nourrir, viennent nourrir leur vie chrétienne. Est-ce que ce troisième public, les Dominicains ont le temps d'essayer de les rejoindre? Ou est-ce que c'est comme tout le reste de l'Église? En fait, vous êtes tellement pris par les gens déjà qui ont besoin d'être nourris que vous n'avez pas le temps d'aller voir les gens dans votre quartier qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, de l'Évangile, qui vous jetteraient l'anathème de prime abord, etc. etc.
Non,
est-ce que c'est une préoccupation communautaire?
Oui, tout à fait. Soit par Internet, soit par du porte-à-porte, on cherche aussi à rencontrer, et on ne peut vivre la mission de prédication, d'annonce de la parole de Dieu, que si soi-même on connaît non seulement la parole de Dieu, mais le terrain à ensemencer. Et on ne peut pas ensemencer de la même façon un terrain en montagne, un terrain en plaine, un terrain au bord de la mer, enfin, etc.
Donc c'est-à-dire qu'en communauté, de temps en temps, vous faites du porte-à-porte autour de la communauté.
Oui. Et nous avons
c'est un
des projets dont nous sommes en train de discuter, c'est d'activer ce moment clé de l'évangélisation qui est la rencontre du terrain. Mais je dirais que notre préoccupation plus grande, à la fois en tant que paroisse à Rangueil et en tant que dominicain, en essayant de faire une symbiose, une synergie entre les deux, c'est comment prêcher, comment former, comment enseigner, non pas pour le confort simplement de l'enseigner, qui va se remplir jusqu'à ras-bord, mais pour qu'il devienne lui-même évangélisateur. Comment cette formation, et là il y a un énorme travail à faire pour changer le style même de la formation, pour former des formateurs. Ce sont les gens qui viennent, doivent repartir pour évangéliser dans leur quartier, leur métier, ou dans leur propre famille.
Et non pas pour faire du foie gras, c'est ça,
Voilà, absolument.
pardon de la pique, mais voilà.
Non, enfin, en gros, c'est cette perspective-là qui est un grave sujet de préoccupation. Il nous faut nous transformer nous-mêmes par la joie de l'Évangile.
Alors, si on avance, donc la transformation missionnaire de l'Église, le pape François plaide pour une Église en sortie, en partance. Dans la parole de Dieu apparaît constamment ce dynamisme de la sortie que Dieu veut provoquer chez les croyants. Et, il cite, « Abraham accepta l'appel à partir vers une terre nouvelle. Moïse écouta l'appel de Dieu, « Va, je t'envoie » et fit sortir le peuple vers la terre promise, etc. etc. » Ce que nous lance, en fait, d'une certaine manière, à la figure, je sais pas tout à fait, le mot est peut-être pas bien choisi, mais le pape François, c'est que nous sommes d'un peuple, c'est vrai, quand on l'écoute, on prend, comment dire, des petits coups de fouet. C'est que l'Église est un peuple, en fait, de nomades depuis toujours, quelque part, non? Elle a pas vocation à s'installer, c'est comme ça que ça a commencé. C'est pas parce qu'elle n'est plus ce peuple, qu'elle a été dans l'ancien, enfin, l'Église, Dieu s'est révélé à un peuple et l'a invité à l'itinérance. Voilà. Et il invite l'Église à retrouver d'une certaine manière cette itinérance.
Alors c'est aussi une dynamique de l'enrichissement de soi par l'autre et de l'autre par soi. Enfin, c'est dans la rencontre que se passe ce dynamisme qui fait qu'on va toujours plus loin. On ne peut pas se satisfaire, parce que se satisfaire de ce que l'on a, c'est rester seul, c'est l'isolement. Donc il y a un mouvement personnel et un mouvement qui nous fait collectif, qui nous fait peuple, l'un de l'autre. Un membre de l'Église, comme cette expression est moche, mais enfin en tout cas, un membre de l'Église est à la fois entièrement en réception et sortie, grâce à l'Évangile, et en même temps c'est tout le peuple qui est dans le même mouvement. Donc il y a une complémentarité extrêmement importante entre chaque baptisé et l'Église et la communauté dans laquelle il
entre. Est-ce que vous pourriez trouver une illustration, quelque chose qui vous parle au cœur et qui pourrait illustrer votre propos? Le souvenir d'une rencontre d'une...
Non, mais moi-même, j'ai passé une vingtaine d'années en Haïti. Je peux dire, par exemple, pour la prédication, hein, on parle de dominicain. La première fois où j'étais prêché en haut d'une montagne, donc en créole, puisque personne ne parlait français à ce moment-là, à cet endroit-là, et moi j'essaye de prêcher, et puis les paysans viennent me voir à la sortie de la messe, ils me disent « Dimanche prochain, tu n'auras pas de papier ». Alors pourquoi ne pas avoir de papier ? Eh bien, parce que je leur ai dit, mais écoutez, dans une langue étrangère, c'est compliqué pour moi, je ne suis pas habitué, j'ai toujours été formé pour d'abord penser à ce que j'allais dire, pour bien que ce soit une synthèse construite, etc. Et là, vous me demandez autre chose. Non, ils m'ont dit une chose toute simple qui reste ma manière de vivre la prédication. Ils me disent, quand tu lis ton papier, nous, on n'est plus là. Ça veut dire qu'il n'y a plus cette relation vivante entre la communauté et celui ou celle qui va devoir jouer un rôle. On est dans son rôle et on n'est pas dans la communauté. Ben moi, je l'ai appris, voilà une anecdote, j'espère qu'elle est parlante pour la France, mais c'est aussi la même chose. Comment on s'enrichit d'être avec et comment on n'est jamais chrétien tout seul. Et comment on s'enrichit en accueillant comme en donnant. C'est toujours dans le mouvement que l'on s'enrichit. Donc la question de l'intimité et de l'itinérance qui est posée au paragraphe 23 de la joie de l'Évangile, c'est bien que Dieu lui-même, en tant que Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, il le reprend dans le paragraphe qui suit, et il est lui-même tout le temps en don et en réception de lui-même, que c'est un amour qui circule et qui se donne.
On va faire une deuxième pause, je lirai juste un autre passage. L'intimité de l'Église avec Jésus est une intimité itinérante et la communion se présente essentiellement comme communion missionnaire. Fidèle au modèle du Maître, il est vital qu'aujourd'hui l'Église sorte pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans hésitation, sans répulsion et sans peur. On fait une deuxième pause un peu spéciale à nouveau par lecture de cet extrait de texte et on vous retrouve tout de suite après.
C'est le 24. L'Église en sortie est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l'initiative, qui s'impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. La communauté évangélisatrice expérimente que le Seigneur a pris l'initiative. Il l'a précédée dans l'amour. Et en raison de cela, elle sait aller de l'avant, elle sait prendre l'initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. Pour avoir expérimenté la miséricorde du Père et sa force de diffusion, l'Église vit un désir inépuisable d'offrir la miséricorde. Osons un peu prendre l'initiative. En conséquence, l'Église s'est impliquée parce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples, le Seigneur s'implique et implique les siens en se mettant à genoux devant les autres pour les laver. Mais tout de suite après, il dit à ses disciples « Heureux êtes-vous si vous le faites ». La communauté évangélisatrice par ses œuvres et ses gestes, se met dans la vie quotidienne des autres.
La communauté évangélisatrice raccourcit les distances, elle s'abaisse jusqu'à l'humiliation si c'est nécessaire et assume la vie humaine. Touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple, les évangélisateurs ont ainsi l'odeur des brebis et celles-ci écoutent leur voix. Ensuite, la communauté évangélisatrice se dispose à accompagner. Elle accompagne l'humanité en tous ses processus, aussi durs et prolongés qu'ils puissent être. Elle connaît des longues attentes et la patience apostolique. L'évangélisation a beaucoup de patience et elle évite de ne pas tenir compte des limites. Fidèle au don du Seigneur, elle sait aussi fructifier. La communauté évangélisatrice est toujours attentive aux fruits parce que le Seigneur la veut féconde. Il prend soin du grain et ne perd pas la paix à cause de l'ivraie. Le semeur, quand il voit poindre l'ivraie parmi le grain, n'a pas de réaction plaintive ni alarmiste. Il trouve le moyen pour en faire en sorte que la parole s'incarne dans une situation concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu'apparemment ceci soit imparfait et inachevé.
Le disciple sait offrir sa vie entière et la jouer jusqu'au martyr comme témoignage de Jésus-Christ. Son rêve n'est pas d'avoir beaucoup d'ennemis, mais plutôt que la parole soit accueillie et qu'elle manifeste sa puissance libératrice et rénovatrice.
Présence sur le plateau de Lannemezan, 92.2.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Lire et relire l'Evangelii Gaudium, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, donc la joie de l'Évangile, cette exhortation apostolique du pape François, publiée presque après son élection, qui se veut donc une annonce, comme un programme, non seulement de son pontificat, mais semble-t-il, au dire du père Gilles d'Enroc, presque de l'Église de demain. Nous sommes donc avec le frère Gilles d'Enroc, dominicain et enseignant à l'IERP, l'Institut d'études religieuses et pastorales, pour une nouvelle émission, donc émission elle aussi mensuelle, donc le dernier mercredi pardon, de chaque mois, où on va essayer de relire Evangelii Gaudium. De lire ou de relire Evangelii Gaudium. Je le disais donc en introduction de cette dernière partie d'émission, cette exhortation se veut programmatique. Alors, ça vaut le coup peut-être d'en redire un mot, pour ceux qui ne nous auraient pas suivis depuis le début de l'émission. Je cite la phrase « Je souligne que je veux exprimer ici une signification programmatique et des conséquences importantes. » Et le pape, un peu plus loin, dit la chose suivante. Paul VI, a invité à élargir l'appel au renouveau pour exprimer avec force qu'il ne s'adressait pas seulement aux individus, mais à l'Église entière. Bref, le pape invite à un renouveau de toute l'Église. Moi, je me suis posé la question. Alors, vous venez de dire c'est très grossier, mais c'est ça le travail des journalistes, c'est d'être grossier. Il y a eu un renouveau dans l'Église après le Concile Vatican II, avec énormément de communautés nouvelles. Parfois, on se dit que ce renouveau est comme retombé ou s'affaisserait, mais qu'il y aurait maintenant un nouveau renouveau qui serait le renouveau, cette fois, non pas de communauté, comme pour en citer une multitude, en tout cas en France, l'Emmanuel, les Béatitudes, le Verbe de Vie, etc. Mais maintenant, ça serait toute l'Église, en fait, qui serait appelée à être renouvelée. Alors, est-ce que j'ai bien lu le pape François, père Gilles Maroc?
Oui, tout à fait. Et en fait, c'est entre la distance, je crois, des deux textes qui se font écho dans la joie de l'Évangile, c'est donc de Paul VI en 1975, soit 10 ans après la fin du Concile Vatican II, l'Évangile et l'évangélisation, Evangelii Nuntiandi, l'Évangile devant être annoncé, pour le traduire rigoureusement. On ne peut pas ne pas l'annoncer quand on l'a reçu. Mais on voit bien qu'il a fallu, et peut-être encore quelques temps devant nous, une cinquantaine d'années pour recevoir. C'est ce qu'on appelle la période de réception d'un concile. Un concile, ça ne se reçoit pas simplement en claquant les doigts, en lisant les textes, en disant « ben voilà, maintenant on les applique ». Il faut les digérer, les comprendre de l'intérieur. Alors, ce qui est dit par le concile, réaffirmé par le pape Paul VI, donc en 75, je le cite, « L'heure sonne pour l'Église d'accomplir la conscience qu'elle a d'elle-même, de méditer sur le mystère qui est le sien. De cette conscience éclairée et agissante dérive un désir spontané de confronter l'image idéale de l'Église telle que le Christ la vit, l'a voulu et l'aima, comme son épouse sainte et immaculée, et le visage réel que l'Église présente aujourd'hui. » Donc, entre cette Église que le Christ a voulu et nous, est-ce qu'il y a conformité? Est-ce qu'on ne doit pas aller tendre vers ce modèle que le Christ a voulu et aimé?
Alors vous disiez, en préparant l'émission, qu'en fait c'est aussi un changement de posture. C'est-à-dire on ne part pas d'en haut, mais on part de ce qui existe. Vous me disiez, en fait, c'est terrain, illumination, terrain. Est-ce que vous pouvez expliciter ça, s'il vous plaît?
Oui, alors ça, c'est en plus, compte tenu de l'histoire du XXe siècle qui a précédé le Concile, et l'importance, vous souvenez de ces mots de l'Action catholique, les trois temps, voir, juger, agir. Et en Amérique latine, donc j'ai fait partie un petit peu pendant une vingtaine d'années de la réflexion de l'Église d'Amérique latine et des Caraïbes, c'est beaucoup plus partir du terrain, mais du terrain où l'Évangile est déjà ensemencé, où l'Évangile est en travail, puis passer au deuxième temps qui est l'illumination, singulièrement par le retour à la parole de Dieu et à l'enseignement de l'Église, pour revenir au terrain et en avoir justement les conséquences pastorales, comment on va vivre dans ce terrain. Donc là, ce qui est dit dans la façon programmatique, c'est un grand mot, c'est-à-dire que l'Église prend conscience d'elle-même, doit plus savoir ce qu'elle est elle-même pour pouvoir annoncer l'Évangile. Or, elle est elle-même non pas en tant qu'un troupeau de fidèles à conserver, mais elle est en tant qu'elle est tout entière missionnaire, tout entière évangélisatrice.
Voilà. On a compris, il y a juste un ou deux points que je voudrais voir avec vous avant de finir, parce que je vois le temps qui passe. Je vais citer juste un autre passage, j'imagine, moi qui m'a fait plaisir, parce que je me suis dit, ah, ça va swinguer là dans l'église. J'imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale deviennent un canal adéquat pour l'évangélisation du monde actuel, plus que pour l'autopréservation. Et puis, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais le pape François invite à ce que la paroisse ne reste pas une structure caduque, mais que ça soit même le premier lieu, compte tenu du fait que c'est le lieu où les gens habitent, c'est la première réalité de la vie chrétienne, qu'elle reste cette communauté de communautés, ce sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher. Mais je voudrais, plutôt qu'on finisse cette émission en commentant l'autre invitation du pape, en fait, il invite un renouvellement aussi quelque part de toutes les structures de l'Église, alors des personnes mais des structures, et il dit en tout cas la chose suivante, il laisse entendre le grand mouvement de décentralisation qu'il entend donner à l'Église, et il dit que même la papauté doit se convertir, il a cette phrase, je dois aussi penser à une conversion de la papauté. Alors peut-être peut-on finir par ce grand mouvement de décentralisation que parfois certains ont un peu du mal à comprendre, comprenant pas la posture du pape, trouvant qu'elle a quelque chose de... de pas ajuster. Qu'est-ce que vous diriez ? Ça veut dire quoi, cette conversion de la papauté de l'Église ?
D'abord, une toute petite remarque. Quand vous citez ce texte, autant donner le numéro, le paragraphe pour que si
les
auditeurs...
Ça ferait un peu trop scolaire, donc les gens se plongeront dedans.
Oui, peut-être. Mais en tout cas, on peut dire que c'est dans les paragraphes 34-39. Voilà, moi, je suis un peu peut-être trop scolaire. Alors, ce décentrement de l'Église, on retrouve le refus de l'autoréférencement, du ronron interne et l'envoi vers la périphérie. Ceci change et la paroisse, et le rôle de l'évêque, il va le dire, et le rôle aussi des autres mouvements ou des communautés de base, par exemple. C'est l'idée de rapprocher la présence du Christ et la parole du Christ du terrain.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour l'évêque, quand vous dites que ça invite à un changement pour l'évêque ? Ça veut dire quoi ?
L'évêque lui-même est un stimulateur de cette évangélisation. Il ne doit pas d'abord penser à la conservation de ce qui est, mais à faire que tout ce qui vient, si se vit dans son diocèse, soit orienté vers cette proximité de l'autre, cette proximité qui rend proche la présence du Christ à ceux qui s'éloignent, ceux qui s'en vont.
Mais on peut aussi se dire que le pape François a beau jeu de dire ça, quand dans une partie des diocèses de France, en fait, on s'épuise déjà à essayer de donner à manger, j'allais dire, au peuple chrétien, non ? Qu'est-ce que vous diriez sur cette...
En fait, c'est peut-être un changement d'attitude intérieure en découvrant que notre vocation, c'est de répondre au Christ qui nous appelle, à Dieu qui nous aime, à la miséricorde de Dieu. Et en un sens, le pape, l'évêque, le curé, l'acteur de la pastorale est lui-même sous le même amour que Dieu a pour le monde. Nous sommes tous d'abord aimés de Dieu. Et c'est par la conscience que nous sommes aimés de Dieu, qu'on devient vraiment missionnaire. Et ça vaut pour tous les niveaux où s'articule l'Église, pour que la structure ne devienne pas une structure pesante qui travaille pour elle-même. On a besoin de financement, de projets, de ceci, de cela. Et on est obnubilé par des plans de pastoral au lieu de, pour améliorer 2% des choses, alors que c'est totalement qu'il faut se tourner vers les autres.
Voilà, et ben merci beaucoup frère Gilles Denroc d'être venu dans cette émission Vivante Église ce matin pour ce format un peu particulier, peut-être plus avec une dimension de formation. On espère qu'en tout cas que ça a intéressé nos auditeurs pour cette émission donc à suivre, émission mensuelle, lire et relire Evangelii Gaudium. On la fera avec vous donc à plusieurs occasions, mais aussi avec un diacre, Jean-Louis Breteau, et avec un jeune prêtre, le père Damien Verlet. Tous trois, vous êtes du diocèse de Toulouse d'une certaine manière. Merci beaucoup. Je rappelle donc la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, texte exhortation apostolique du pape François.
Merci Emmanuel.
Cette émission est réalisée par Francky Guéret. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.